La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et surtout avec Anne de Guigné du Figaro et Christophe Barbier, éditorialiste, dramaturge, comédien, qu'on peut voir chaque semaine le lundi au Théâtre de Poche à Montparnasse, dans Mozart, mon amour, à quelle heure?
À 21h tous les lundis.
À 21h, donc Christophe Barbier en Mozart sur la scène du théâtre. Mais là, pour l'instant, ils sont sur la scène de Radio Classique dans Esprit Libre. On va parler de l'uniforme à l'école, mais avant cela, parlons du Salon de l'Agriculture. Et puisqu'on parle de l'uniforme à l'école, je lance à nos auditeurs cet appel. Est-ce que vous avez porté, vous, l'uniforme à l'école? Peut-être. Ou une blouse en chimie, une blouse en dessin, en art plastique, ou un uniforme tout court. Écrivez-nous pour nous dire quels souvenirs vous en avez, si vous estimez que l'uniforme ou une tenue homogène pour les élèves est propre à rétablir de l'autorité, de la cohésion, de la cohérence dans les classes de France et de Navarre. Mais évoquons tout de suite, avec nos deux esprits libres, le Salon de l'Agriculture. Ça n'est plus seulement un morceau de France en plus petit, hein, plus seulement un espace de démonstration de nos plus belles réussites agricoles. C'est devenu un champ de bataille politique. Ça fait plusieurs semaines qu'on se désole de la crise agricole, qu'on frémit à l'idée de la révolte paysanne. Mais finalement, est-ce qu'avoir un débat politique grandeur nature, avant les européennes, qui ait lieu au Salon de l'Agriculture, est-ce que c'est pas la meilleure chose qui puisse arriver à la classe politique française?
En tout cas, c'est une très bonne chose pour la démocratie française que ce débat explose aujourd'hui, parce qu'en fait, tous les débats sont dans ce conflit agricole. D'abord, un débat économique. Est-ce qu'on est libre-échangiste ou souverainiste? Est-ce qu'on est pour la transition écologique à marche forcée, ou est-ce qu'au contraire, on veut y aller en douceur pour accompagner nos agriculteurs? Ensuite, une vision politique. On voit bien que derrière ces deux visions de l'économie, il y a d'un côté le RN qui veut un repli national et on sort du libre-échange, et de l'autre, ceux qui considèrent que la France est exportatrice nette en agriculture et qu'il faut donc préserver ce libre-échangisme. Et puis, il y a de la géopolitique qui s'en mêle. Quand vous voyez les Russes manipuler à coups de réseaux sociaux et de trolls les éleveurs de poules polonais en leur disant vos malheurs viennent des Ukrainiens parce que l'Europe prend les poulets ukrainiens à tarif réduit, eh ben ça agite évidemment les opinions. Et on a vu aussi une enquête montrer que en France certains hashtags étaient manipulés par les trolls russes pour susciter cette colère agricole, une colère contre l'Union européenne. Vous voyez, tous les débats, tous les conflits, toutes les lignes de force se retrouvent au Salon de l'Agriculture.
Et comme on a des syndicalistes agricoles, des partis politiques qui sont particulièrement agile, tout le monde instrumentalise ce Salon de l'Agriculture, et pas seulement les hackers russes, Anne de Guigné.
Oui, on a vu, mais le RN, c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que dans le fond, il propose pas grand-chose, mais Jordan Bardella se balade au Salon, il est très bien accueilli, on voit qu'il se contente un peu, il écoute, il est assez fort, hein, il propose pas grand-chose, il écoute, et il recueille beaucoup la colère des agriculteurs, parce que c'est vrai que la colère, en fait, c'est complètement focalisé sur tous les sujets européens. Vous avez le pacte vert, les questions de libre-échange, les normes, la PAC. Et moi, je trouve, là où je mettrais une nuance avec Christophe, c'est que je trouve que autant vraiment cet antagonisme était très fort en 2017 entre un parti qui était vraiment pour le repli national et un parti beaucoup plus européen, ouvert sur l'international, autant les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, je trouve, brouillent un peu tout, parce que à Bruxelles, c'est le héros de la lutte contre le Mercosur, donc le dernier traité de libre-échange. Sur les normes écologiques, il a beaucoup essayé de rétro-pédaler. Et on le comprend, hein, la colère des agriculteurs est très forte. Mais je trouve qu'aujourd'hui, justement, dans cette campagne qui va s'annoncer sur les européennes, le macronisme a besoin de remonter une ligne claire. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont, en fait, ils disent... Oui, on a été trop loin. Et en fait, c'est devenu un peu... Ils reprennent un peu les thèmes, les critiques du RN, mais de façon plus raisonnable. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, au-delà de cette nuance, pour les électeurs macronistes, il y a quand même une forme... il y a besoin d'un message clair. Emmanuel Macron parlait d'une Europe puissante. Et c'est vrai qu'on voit bien que l'Europe a du mal à s'affirmer, à défendre ses intérêts. Quels sont les intérêts européens? D'ailleurs, la question reste ouverte. Et je pense que là-dessus, il faut qu'il aille pour bien se démarquer et retrouver en effet cet antagonisme clair entre les deux parties.
Anne de Guigné, est-ce que c'est pas ça qui fait quand il dit en substance entre le Rassemblement National et Renaissance, donc lui, il y aura rien. Finalement, c'est un tête-à-tête qui commence au Salon de l'Agriculture, ligne de départ de l'élection européenne, et finalement Renaissance s'est choisi une tête de liste que les Français ne connaissent pas, ouais. Hein, Madame Hayé, qui siège au Parlement européen, mais en fait on a le sentiment que c'est Gabriel Attal et Emmanuel Macron qui vont faire la campagne pour Renaissance. C'est votre
sentiment
clairement, à vous?
Mais vous vous rappelez la dernière campagne, à la fin c'était Nathalie Loiseau la tête de liste, et Emmanuel Macron a fini par mettre sa propre son propre visage sur les affiches. Et donc là, il y va clairement. Là, c'est clairement lui la tête de liste, c'est ce qu'il assume.
Et Édouard Philippe avait été décisif en dénonçant la droite Trocadéro pour ramener des électeurs LR vers la Macronie.
Christophe Barbier, comment expliquez-vous sociologiquement qu'on ait tant de mal à mettre des stars en tête de liste des élections européennes? Je fais une exception pour Glucksmann et Bellamy, qui, eux, reviennent, récidivent, et au moins ne pêchent pas par inconstance dans leur engagement européen.
Les partis qui sont dans l'opposition peuvent profiter de la tribune des européennes pour faire pousser des notoriétés. Aujourd'hui, c'est Jordan Bardella ou Marion Maréchal qui veulent profiter de ce tremplin. Jadis, ça a servi des figures quand même. Quand Philippe de Villiers s'est lancé dans la campagne des européennes, c'était pour lui un formidable tremplin de notoriété avant la présidentielle de 95, mais ça avait mal tourné pour lui ensuite. Donc il y a cette fonction parfois de création, quand on est dans l'opposition, d'une notoriété. Quand vous êtes au pouvoir, vous vous dites « Ouh là là, je vais aller à Bruxelles, je vais m'éloigner des plateaux télé, les Français s'intéressent pas à ce qui se passe à l'Europe, le Parlement européen c'est complexe et confus, on ne vous le voit jamais à la télévision », vous hésitez à franchir ce pas. Ça pose d'ailleurs un problème, c'est que de plus en plus de nos législations sont arrêtées à Bruxelles, et le reste est de la transcription, et de moins en moins de nos poids lourds politiques veulent aller à Bruxelles et à Strasbourg peser sur ces législations. Un jour, il faudra que la France sorte de cette schizophrénie et investissent vraiment les instances européennes. Non seulement les élus du Parlement, mais la fonction publique aussi. Beaucoup de parlementaires européens français disent, vous vous rendez pas compte, mais les fonctionnaires les plus importants étaient jadis des Britanniques et maintenant c'est des Allemands. Les fonctionnaires français ne veulent pas faire carrière au niveau européen.
Et pourtant, il y a plein d'avantages, si je prends ça par le petit bout de la lorgnette, à faire des carrières internationales.
Bien sûr, notamment fiscaux.
Bon,
mais c'est surtout l'intérêt de la France qui devrait mouvoir et les fonctionnaires et les politiques pour aller à l'Europe.
Anne de Guigné, on disait que le Rassemblement National avait su tirer la couverture à lui pendant ce salon de l'agriculture. Il y a des manifestations d'agriculteurs au niveau européen. Est-ce que vous avez le sentiment que la Russie est l'accélérateur de ce mécontentement agricole? Est-ce qu'elle l'amplifie par des stratégies souterraines de hacking? Et d'une certaine façon, est-ce que la Russie est l'allié non objectif du Rassemblement National en cette affaire?
C'est sûr que la Russie, on a l'impression, dès qu'il y a un peu de chaos en France et d'ailleurs dans les autres pays d'Europe occidentale, on voit toujours, d'une manière ou de l'autre, sans doute un peu, d'ailleurs souvent un peu après, qu'il y a des hackers russes, liés officiellement ou pas au pouvoir de Moscou, qui viennent accentuer le chaos. Ça, on l'a beaucoup vu. On l'a entendu à nouveau pour la crise agricole. J'avoue que moi-même, je connais mal ce monde des hackers, mais oui, j'ai vu ça, qu'il y avait des hackers russes qui essayaient d'amplifier sur les réseaux, sociaux, le chaos. On l'avait vu notamment au moment des punaises de lit. Ça a été démontré ensuite qu'il y a eu cette forme de panique et d'ailleurs qui a donné une très mauvaise image de la France à l'étranger. On a l'impression que Paris était recouvert de punaises, qu'il y avait derrière des hackers russes qui avaient beaucoup, beaucoup amplifié. En fait, il y avait des punaises comme partout dans le monde et que les hackers russes avaient beaucoup, beaucoup amplifié le bruit autour. Donc oui, je pense que la Russie joue. Évidemment qu'il y a des liens pas du tout, pas officiels, que c'est très ambigu, mais que le RN est plus proche de la Russie que les autres partis. Et là, pour le coup, il y a une distinction très claire entre le parti macroniste et le RN sur la guerre en Ukraine, sur le lien avec l'Ukraine. Je pense que le RN est beaucoup plus ambigu, même si évidemment ils ne le disent pas, mais quand on voit les votes au Parlement européen, c'est très clair.
Christophe Barbier, la Russie trouve dans la capacité d'auto-dénigrement et de pessimisme et de dépression française un allié incroyable. Il suffit de distiller une crise des punaises de lit et les Français qui adorent perdre se complaisent dans cette affaire comme dans d'autres, évidemment.
Ce qui fait la force des démocraties fait leur faiblesse. Notre droit de râler, notre capacité à nous déchirer sur n'importe quel sujet, notre volonté de dire « si je ne suis pas d'accord, je veux pouvoir mettre ma banderole ». Eh bien, tout cela laisse à nos ennemis des portes d'entrée pour susciter les mécontentements, les enfiévrer, les enflammer et donner l'impression qu'il y a une sorte de chaos national. C'est vrai sur des sujets anecdotiques comme les punaises de lit, c'était vrai aussi sur des sujets plus tragiques comme les émeutes de juin dernier.
Alors il y a un sujet sur lequel les Français ne se lamentent absolument pas, c'est leurs 3000 milliards de dettes publiques. Le seul à se lamenter, c'est Édouard Philippe, qui en fait d'ailleurs un sujet de distinction politique dans la politique du quoi qu'il en coûte. l'écoute, qu'il a aussi un peu pratiqué lui, hein, du temps du Covid. Mais enfin, ce matin, il donne une interview à l'Opinion et il explique qu'on ne réforme pas et qu'on ne réforme pas non plus les finances publiques et que la rigueur, ça ne serait pas trop, même s'il ne veut pas la nommer de cette façon-là. Anne de Guigné, vous avez attiré mon attention sur l'État français qui veut faire des économies, et notamment dans le domaine de la santé et du social. Mais d'abord, une réaction sur la sonnette d'alarme que tire Édouard Philippe.
Là-dessus, il est assez constant. Ça a toujours été son point. Et c'est vrai que bon, dans le Covid, il a énormément dépensé. Mais quand je suivais les liens entre Matignon et Bercy, il était toujours quand même plus du côté de la rigueur, Édouard Philippe. Et là, il essaye de se faire entendre sur ce point. Moi, je pense qu'il a raison, que la dette publique, c'est extrêmement important, que ça risque à un moment donné ou l'autre de revenir très fort en France, et on va voir les prochaines agences de notation, hein, c'est avant les européennes, et si la France est dégradée, on peut rentrer dans un moment très difficile. Je pense qu'il a raison sur le fond, mais c'est vrai que politiquement, il faut reconnaître que les Français s'en moquent complètement, et je ne suis pas sûre qu'il engrange des points par ce débat, mais il est courageux de le faire, parce que c'est essentiel. Et là, le gouvernement tente de s'attaquer au sujet.
Via les dépenses sociales et de santé. Voilà. C'est le dossier du Figaro, voilà. Page saumon aujourd'hui.
Exactement. Mais d'abord, via des rabots pour 2000. En fait, il y a deux sujets compliqués. Il doit déjà revoir le budget pour 2024, cette année, et puis préparer celui de 2025. Donc il a 10 milliards plus 12 milliards. Et il fait des rabots pour 2024 et pour 2025, il essaye de promettre quelques vraies réformes, les réformes qu'attend Édouard Philippe.
Depuis la cigale et la fourmi, on sait que dans notre pays, évidemment c'est la fourmi qui a raison, mais évidemment on a envie de voter pour la cigale. Donc si Édouard Philippe n'a que ça à proposer aux Français, il sera battu à la prochaine présidentielle. Juppé sort de ce corps. On veut qu'il fasse une politique de sérieux sur les comptes publics une fois qu'il sera au pouvoir, s'il y arrive. Mais pour arriver au pouvoir, faut être plus près de Jacques Chirac 95 que de Édouard Philippe 2024.
Christophe Barbier, comment vous expliquez que les Français, qui sont un peuple cartésien, on est rationnel en France, comment expliquez-vous qu'en matière économique, on soit plus proche des pays latins que des pays du Nord à culture protestante? Qu'est-ce qui explique que les Français soient insouciants quant à la profondeur de la dette publique?
Encore une minute, monsieur le bourreau. On sait bien que le couperet va tomber sur nos dépenses excessives, mais c'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est pour la génération suivante. On l'a vu sur les retraites, on le voit sur la dette, on veut reporter cela. Nous sommes des hédonistes. Oui, peut-être que nous sommes des cartésiens, mais il y a carpe diem. Carpe diem, c'est cette envie de profiter encore de plaisirs qui nous sont offerts, et le plaisir de la dépense, l'addiction à la dépense, quand c'est pas votre argent, mais celui des générations futures, c'est irrésistible. Par ailleurs, on continue à nous prêter de l'argent. On continue à nous prêter de l'argent. Les prêteurs font confiance à la France. Pourquoi? Parce que depuis Colbert, la France arrive à prélever l'impôt. Et donc on sait que le jour où il faut serrer la vis, l'argent rentre dans les caisses de l'État parce que les Français ont peur du gendarme fiscal.
Alors, puisqu'on parle de rigueur financière, on va parler de rigueur vestimentaire. Nos auditeurs sont intarissables sur le tablier, la blouse, l'uniforme à l'école. Je vous lis un message parmi d'autres. Bénédicte, je me souviens de ma blouse au collège à Montpellier. J'en garde un souvenir ému. Peut-être que les photos de classe expliquent aussi ce souvenir, mais en noir et blanc. C'était un tissu de l'époque, années 70, synthétique, à carreaux écossais verts. Tous les élèves avaient une blouse de leur choix et aucun ne se posait la question sur le port de la blouse. Un bon souvenir. Bonne journée. Merci de votre message, Bénédicte. On en a comme ça des ribambelles. L'uniforme est-il un remède miracle ?
Miracle, non, mais c'est une tentative intéressante pour effacer les différences sociales, mettre un holà au consumérisme qui fait des ravages dans les relations entre les plus petits, et puis bien sûr à ceux qui veulent profiter des tenues pour faire rentrer des idées politiques ou religieuses. L'expérimentation, puisqu'en ce moment nous sommes en expérimentation, vaut le coup d'être tenté. Laissons Béziers ouvrir la voie, laissons d'autres villes y aller. D'autres plus réfractaires ont décidé de ne pas le faire parce que il y a une discussion collective au niveau des établissements et des communes. Et puis on verra bien. Et si un jour, une partie de la France prend l'uniforme et l'autre partie ne la prend pas, la liberté scolaire sera toujours là.
Anne de Guigné, vous avez porté l'uniforme à l'école, en tout cas un petit ensemble bleu marine, et vous êtes devenue journaliste au Figaro.
Ah bah comme quoi l'uniforme.
Quel souvenir vous en avez ?
Moi j'ai le souvenir que malgré tout, voilà, les différences se nichaient ailleurs, qu'il fallait être en bleu marine, mais que vous aviez ou pas la bonne marque, vous aviez ou pas les chaussures à la mode, vous aviez pas le sac à la mode, et qu'en fait l'uniforme, vous pouvez pas gommer, il y a toujours des enfants qui auront envie de se distinguer d'une façon ou l'autre, de faire sentir à des enfants de milieux plus défavorisés qu'ils ont pas les bons vêtements. Et je suis pas sûre, oui, je trouve ça intéressant, l'uniforme, peut-être, il faudrait faire des expérimentations vraiment scientifiques. Est-ce que ça limite le harcèlement scolaire? Pour moi, c'est ça le sujet. J'en sais rien. Moi, de mon expérience, non, j'ai connu une scolarité très normale, être des enfants plus ou moins heureux. Mais, moi, je crois que quand même, la priorité en France, c'est le niveau des maths, le niveau scolaire. Et là, j'ai un peu peur qu'une fois de plus, on passe à côté des vrais sujets, qui sont les décrochages monstrueux dans tous les tests PISA et les maths. Moi, j'ai envie de dire plutôt, Béziers, ils sont adorables, ces enfants, mais...
C'est moins un sujet scolaire qu'un sujet social. Mais on pourrait expérimenter l'écharpe rouge obligatoire pour tout le monde.
Ah bah non, mais il y en a qu'un qui porte une écharpe rouge, c'est Christophe Barbier. L'uniforme qui sera peut-être celui qui cache la forêt des lacunes de nos élèves. On verra ce que donnent les expérimentations. Merci à tous les deux. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous sommes le 27 février. Je ne vous apprends rien, mais peut-être ne le savez vous pas, c'est l'anniversaire de la mort du pianiste américain Van Cliburn, qui est connu pour avoir été le premier pianiste américain à remporter la première édition du concours international Tchaïkovski à Moscou. C'était il y a longtemps, en 1958, en pleine guerre froide, comme quoi tout était possible à l'époque, même qu'un Américain gagne ce fameux concours Tchaïkovski. On l'écoute interpréter la polonaise héroïque de Chopin. Christophe Hahn, merci, à très vite.
Merci David.
Au revoir.